Les dessous de l'Infox. François Bernard.
Bonsoir et merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale.
Les dessous de l'Infox.
Dans la guerre d'influence que mènent les États pour installer leur suprématie, la Chine joue un rôle de premier plan. Le caractère massif, voire agressif de sa stratégie d'influence, sa volonté de mondialiser sa présence sur la planète, en font un utilisateur sans état d'âme de la désinformation. On en parlera avec Paul Charron de l'IRSEM, c'est l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Il vient de publier avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer un rapport qui a pour titre « Les opérations d'influence chinoises ». Des mercenaires russes entraînant des soldats maliens, deux photos et de sérieux doutes sur leur authenticité si l'on en croit l'enquête menée par Pauline Tchoubard de la rédaction des Observateurs de France 24. Mais tout de suite, la chronique, les dessous de l'Infox. Sophie Malibeau, Grégory Genevrier, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, cette semaine, votre chronique nous emmène au Mali, où le président français Emmanuel Macron se rendra ce lundi. Une visite pour clarifier les relations entre les deux pays, alors que les sujets de tension s'accumulent ces derniers mois. La défiance à l'égard de la France est attisée par la désinformation sur les réseaux sociaux. Et RFI n'est pas épargné par les infox, Sophie Malibeau.
Oui, alors vous savez, cela fait une vingtaine d'années que Serge Daniel travaille au Mali comme correspondant de RFI. Et il est depuis quelque temps la cible d'une campagne de désinformation. Une vidéo circule sur Facebook accusant la France de faire tout pour, je cite, « couler la transition malienne ». Et son auteur affirme que notre confrère serait utilisé à cette fin. Cette publication s'inscrit dans un narratif anti-français qui présente la France comme l'allié des terroristes au Sahel. Et cette vidéo, déjà vue plus de 140 000 fois, prétend faire des révélations sur Serge Daniel et affirme détenir des preuves qu'elle s'abstient néanmoins de fournir, Grégory.
Oui, en guise de révélation, la publication cite des éléments de la vie de Serge Daniel, notamment le fait qu'il soit franco-béninois, ce qui n'est un secret pour personne. Alors, sur cette vidéo, on aperçoit une série de photos du journaliste accompagnées d'extraits d'interviews et d'une voix de synthèse qu'il accuse à tort de vendre son peuple. Cette même voix lui reproche d'être, je cite, « en contact direct avec les terroristes présents au nord du Mali », une accusation bien évidemment sans aucun fondement. La bande-son ajoute qu'à chaque fois qu'une mission doit être exécutée par les terroristes au Mali, Serge Daniel est au courant de tout. Alors ici, on est face à une interprétation volontairement erronée d'un entretien qu'il a tenu à la radio-télé burkinabé en 2018.
Serge Daniel au courant de tout, selon cette publication Facebook. En d'autres termes, on lui reproche de faire son métier de journaliste.
Oui, alors ce qui est pervers dans cette affaire, c'est l'insinuation d'une proximité avec les terroristes. En fait, si l'on se réfère à l'entretien original accordé il y a deux ans, donc à la RTB, notre correspondant explique bien comment il traite ce sujet sensible des attaques terroristes. Des revendications d'attentats peuvent lui parvenir, elles ne sont pas systématiquement diffusées et en tout cas jamais sans vérification, notamment auprès des autorités locales. C'est le travail de base du journaliste. Recevoir des revendications de terroristes, ce n'est pas relayer leur propagande. L'entretien original est tout à fait clair. Les accusations proférées sur ce compte Facebook sont sans fondement. Outre l'utilisation fallacieuse de cette ancienne interview, la campagne de désinformation recourt également à deux faux tweets.
Oui, deux faux tweets viennent soi-disant compléter le message de la vidéo. En substance, le journaliste s'excuserait de travailler pour la France, mais en réalité, il s'agit de textes fallacieux apposés sur des tweets de Serge Daniel. Ce sont des montages bas de gamme, puisque ni la typographie ni même la charte graphique de Twitter ne sont respectées. Serge Daniel a déposé plainte.
Est-ce qu'on sait quelque chose de l'origine de ces attaques ?
Eh bien, ce sont des attaques anonymes, donc difficiles à tracer. Mais ce que l'on voit en examinant les partages, c'est que ceux qui contribuent à amplifier la circulation de l'Infox sont d'ardents défenseurs d'un rapprochement russo-malien. Les comptes les plus actifs diffusent également des messages à la gloire de Vladimir Poutine, appelant les mercenaires russes de Wagner à venir au Mali et dénonçant la venue d'Emmanuel Macron ce lundi 20 décembre.
Les dessous de l'Infox.
Et des mercenaires Wagner, on en reparle en fin d'émission avec la rédaction des Observateurs de France 24. Sophie Malibeau, Grégory Genevrier, merci à tous les deux. Pour exercer leur influence, les autorités chinoises ont élaboré une stratégie qui utilise tous les leviers de l'État pour se répandre à l'intérieur et à l'extérieur du pays. C'est une action massive, multiple et sophistiquée. Alors, comment fonctionne précisément cette politique d'influence et quels sont ses résultats ?
On en parle.
On en parle avec Paul Charron, qui est directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Il vient de publier avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer un rapport qui a pour titre « Les opérations d'influence chinoises ». C'est donc publié par l'IRSEM. Bonsoir Paul Charron.
Bonsoir.
Alors, vous expliquez dans votre rapport que cette politique d'influence chinoise vise d'abord à séduire et à trouver des alliés et qu'ensuite vient le temps de l'infiltration, voire de la contrainte. Est-ce que vous pouvez développer cette idée ?
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on essaye de montrer dans ce rapport, c'est que les opérations d'influence chinoise ont évolué en deux temps, disons, si on schématise un petit peu. Il y a une première période où le Parti communiste chinois s'est essentiellement attaché à construire un soft power, si on veut le dire vite, c'est-à-dire une image positive de la Chine. Mais cette période est un peu passée et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que la Chine essaye de plus en plus de s'appuyer sur des moyens coercitifs, des moyens qui relèvent de l'infiltration, de l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres États, pour développer son influence. C'est pour ça qu'on en fait référence dans le titre à Machiavel, puisqu'il nous semble qu'aujourd'hui, la Chine considère qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Mais ça ne veut pas dire que la Chine, que le PCC en tout cas, a complètement abandonné les opérations de séduction, c'est-à-dire qu'elle mêle les deux. Et on peut même dire qu'aujourd'hui, même si on compare par exemple à la Russie, qui est un acteur important en termes d'influence, que la Chine a le répertoire d'action le plus large. Vraiment, les opérations de séduction utilisant les instituts Confucius, la langue, la médecine traditionnelle chinoise, jusqu'aux opérations très coercitives qui mêlent manipulation de l'information, contraintes économiques, etc.
Et pour mener cette politique d'influence, les autorités chinoises utilisent manifestement tous les secteurs du pouvoir dont elles disposent, le parti, l'État, l'armée, les entreprises. Comment c'est une machinerie très, très importante, très complexe. Comment on pourrait la décrire ?
Oui, c'est une machinerie extrêmement complexe et c'est une véritable galaxie, en fait, hein, qui comprend de multiples acteurs, et comme vous l'avez bien dit, des acteurs bien sûr issus du parti, hein, comme le département du travail de Front Unique, qui est un instrument essentiel de la stratégie d'influence de la Chine, le département des liaisons internationales, qui assure une diplomatie parallèle en direction des partis politiques, mais aussi des structures au sein de l'État, comme le ministère de la Sécurité de l'État, qui est un principal service de renseignement civil de la Chine. Bien sûr, l'armée, on montre dans le rapport comment un certain nombre de bases sont impliquées dans des stratégies d'influence qui s'inscrivent dans ce que les Chinois appellent les trois guerres, donc qui est une doctrine qui a émergé en 2003, qui comprend la guerre de l'opinion publique, la guerre psychologique et la guerre du droit, mais aussi des entreprises. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont complètement partie prenante à ces opérations d'influence, notamment dans la dimension de collecte de données. Il y a un certain nombre de comme GTCOM, par exemple, qui est une entreprise qui travaille très étroitement avec le pouvoir chinois et qui produit des analyses sur la base de collecte de données très, très large, mêlant aussi un travail à partir d'intelligence artificielle et qui fait de l'analyse de risque, en fait, au profit du Parti communiste.
Et l'utilisation massive des réseaux sociaux. Vous écrivez dans votre rapport, une étude de 2021 montre que le parti peut compter sur 2 millions de commentateurs payés auxquels ça ajoute plus de 20 millions de trolls, temps partiel, dont la plupart sont des étudiants d'ailleurs et des membres de la jeunesse communiste.
Oui, alors effectivement, le Parti communiste est extrêmement actif sur les réseaux sociaux, pour plusieurs raisons. Hein. D'abord en interne, parce que c'est un moyen important pour contrôler la jeunesse, hein, par exemple, mais pas seulement, mais toute critique qui pourrait être formulée à l'encontre du parti, mais aussi à l'international. Et aujourd'hui, on a des preuves. Hein. Alors, nous, on en signale un certain nombre dans le rapport. Il y en a d'autres. Il y a des études qui sortent très régulièrement. Facebook a encore sorti une étude il n'y a pas longtemps qui montre l'activité des Chinois sur les réseaux sociaux. Création de faux comptes, amplification publication de comptes de médias chinois officiels, par exemple, ou campagne de trolling contre ceux qui agissent contre les intérêts du PCC, ou qui humilient la Chine. Hein. C'est ce qui est arrivé, par exemple, au nageur australien Mark Horton, qui avait battu le champion chinois et qui, pendant plusieurs mois, a subi des milliers d'insultes sur ses comptes sociaux. C'est parfois des mouvements spontanés, mais parfois ils sont moins spontanés. Et en effet, ce que l'on a remarqué depuis 2 ans à peu près, c'est une implication croissante de la Ligue de la Jeunesse communiste dans ce type d'opération à l'étranger.
Les commentateurs qui n'épargnent pas, vous le dites, ceux qui, comme vous d'ailleurs, donnaient une image de la Chine qui ne plaît pas beaucoup aux autorités chinoises. Et vous tenez d'ailleurs à distinguer les autorités chinoises du peuple chinois.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on ne cesse de rappeler que nous, on parle du Parti communiste chinois. C'est de lui et c'est ce régime particulier qui produit ce type d'action. Il ne s'agit absolument pas de dénoncer un peuple. Ce serait ridicule et faux factuellement. Oui, mais bien évidemment, certaines personnes peuvent être la cible de ces actions. Et alors, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais ça peut prendre d'autres formes. Par exemple, je vous renvoie au cas de la chercheure française Valérie Niquet, qui est poursuivie par Huawei pour avoir expliqué que Huawei était lié à l'Armée populaire de libération. Et donc, elle est poursuivie dans le cadre en justice. Et ça, c'est ce qu'on appelle une procédure Bayon, donc une procédure qui vise à faire taire un journaliste, un chercheur qui critique le Parti communiste chinois.
Parmi les nombreux exemples du fonctionnement de cette guerre d'influence, vous décryptez en 2020, par exemple, au début de la pandémie, la volonté des autorités chinoises de faire croire à l'origine américaine du Covid. Comment s'est opérée cette campagne-là, par exemple ?
Alors, en quelques mots, parce que c'est une opération assez complexe. Donc, une opération qui s'appuie essentiellement sur des productions externes à la Chine. C'est ça qui est intéressant, en fait, dans ce cas-là. C'est-à-dire que les Chinois ont saisi l'opportunité de s'appuyer sur des articles écrits par notamment par un Canadien, Larry Romanoff, qui accusait les États-Unis d'avoir fabriqué le virus, le SARS-CoV-2. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans cette opération, le PCC a complètement copié une opération du KGB de 1983, qu'on appelle Infection. C'est pour ça que nous, on appelle cette opération Infection 2.0. Et qui avait accusé, à l'époque, le KGB avait accusé la base de Fort Detrick d'avoir fabriqué, donc une base de l'armée américaine, d'avoir fabriqué le virus du sida pour décimer les populations gays et afro-américaines. Et les Chinois ont récupéré ce matériel narratif et ont accusé les États-Unis, en s'appuyant sur un certain nombre d'articles écrits par des conspirationnistes, que les Américains, dans la même base, Fort Detrick, avaient fabriqué le virus de SARS-CoV-2. Et bien sûr, c'était pour se dédouaner, puisqu'on sait très bien, tout le monde sait que le virus a émergé dans la région de Wuhan. Et les Chinois ont trouvé cette stratégie pour accuser les États-Unis.
Alors, autre sujet d'actualité, le sort des Ouïghours. Comment se met en place, par exemple, toute la communication qui entoure la question Ouïghours ? Comment fonctionne la machine sur ce sujet-là ?
Pour les Ouïghours, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'il s'agit avant tout d'éviter que les informations sortent de Chine. Donc, on est là dans une problématique un petit peu différente. D'abord, c'est empêcher qu'on puisse enquêter, qu'on puisse dire la vérité sur ce qui se passe au Xinjiang. Donc, ils mettent tout en œuvre pour que les journalistes ne puissent pas s'y rendre, que les chercheurs non plus, etc. Et pour ceux qui, par exemple, sont à l'étranger, les Ouïghours qui sont réfugiés aux États-Unis, au Canada, par exemple, parfois en Europe aussi, là, il y a des pressions qui sont exercées. On a plusieurs cas qui sont cités dans le rapport, de pressions exercées sur des individus directement, parfois sur leur famille, pour les faire taire, les empêcher de parler, des pressions qui sont exercées aussi parfois sur des gouvernements, sur des municipalités pour empêcher que des associations se réunissent pour défendre les intérêts des Ouïghours, par exemple, pour faire connaître cette situation.
Alors, on pourrait évoquer la question taïwanaise qui bénéficie d'un traitement particulier, un traitement de choc, si j'ai encore votre rapport. Malheureusement, on arrive en fin de cet entretien. Et tous ces exemples montrent les efforts produits par les autorités chinoises pour imposer une image positive, effort massif, tous azimuts. Est-ce que cette politique d'influence porte ses fruits ?
Oui et non. À certains égards, oui. La Chine Chine est plus agressive et elle parvient souvent à obtenir satisfaction de la part de ses interlocuteurs, si je puis dire. Elle les contraint à céder, donc forcément elle obtient une satisfaction à court terme. À plus long terme, c'est sans doute une mauvaise stratégie et on le voit, pour en donner au moins un argument rapidement, c'est l'effondrement de l'image de la Chine dans le monde. Mmh. Et pas seulement en Occident, mais aussi en Asie, par exemple. Hein. Si on regarde les dernières études du Pew Research Center, on voit bien que l'image de la Chine s'est dégradée, y compris dans des pays comme la Corée du Sud, où elle jouissait d'une image extrêmement positive.
Paul Charron, directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides de l'IRSEM, l'Institut des recherches stratégiques de l'école militaire, qui vient de publier ce rapport, les opérations d'influence chinoise que vous co-signez avec Jean-Baptiste Jean-Jeune Villemer. Merci Paul Charron, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Nous retrouvons maintenant Pauline Tchoubard de la rédaction des Observateurs de France 24. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Alors vous avez enquêté sur une photo qui est censée montrer des soldats maliens entraînés par un instructeur russe.
Oui, la photo circule sur les réseaux sociaux depuis le 10 novembre dernier. On y voit trois personnages. Deux soldats africains, armés de Kalachnikov, qui portent des insignes des forces armées maliennes sur le bras. Et face à eux, un instructeur blanc qui leur indique quelque chose du doigt. Et derrière eux, on voit un bâtiment gris un peu délabré. L'instructeur porte un treillis militaire qui rappelle ceux portés par les mercenaires Wagner.
Wagner, vous pouvez nous rappeler qui sont ces mercenaires ?
Alors Wagner, c'est une société militaire privée russe. Ses combattants ont opéré en Ukraine, en Syrie, en Libye et en Centrafrique. Et récemment, en septembre, l'agence Reuters a révélé qu'il pourrait bientôt arriver au Mali. Moscou et Bamako ont démenti cette information, mais malgré tout, on a vu passer pas mal d'intox sur ce sujet sur les réseaux sociaux.
Alors qu'est-ce qui vous fait penser que cette photo ne montre pas des mercenaires russes au Mali ?
En fait, dès que la photo a commencé à circuler, des personnes sur les réseaux sociaux ont commencé à dire qu'elle aurait été prise non pas au Mali, mais en Centrafrique. Et plus exactement, dans l'ancien palais de l'empereur Bokassa à Berengo. C'est justement là que les instructeurs russes Wagner entraînent l'armée centrafricaine depuis 2018. Et effectivement, nous avons parlé à plusieurs sources qui connaissent bien l'ancien palais de Bokassa et elles nous ont toutes confirmé la ressemblance avec le bâtiment que l'on voit sur la photo. Nous avons aussi visionné plusieurs heures de reportages filmés sur place et on peut y voir des murs qui ont exactement la même couleur et la même structure que celui de la photo.
Donc il pourrait s'agir d'une mise en scène, une photo prise en Centrafrique pour faire croire que des instructeurs russes sont au Mali ?
Malheureusement, à ce stade, on ne peut pas affirmer avec certitude que la photo a été prise à Berengo. Mais il y a un autre élément qui nous a fait douter. Quand on regarde comment la photo a été diffusée, on dirait qu'elle a été partagée de manière coordonnée. Il y a plusieurs facteurs qui nous font penser ça. Déjà, elle a été publiée par un profil Facebook actif depuis peu, avec seulement une dizaine d'amis, et dont la plupart des publications dénoncent l'influence française au Mali et soutiennent l'alliance avec la Russie. Donc quand ce compte a publié la photo, seules quelques personnes ont réagi. Et pourtant, elle a été reprise le jour même par plusieurs médias russes. Nous avons contacté deux spécialistes de l'influence russe sur Internet et ils le confirment, il s'agit vraisemblablement d'une stratégie de propagation artificielle. Et en plus, certains des sites qui ont repris la photo sont liés à un groupe de médias présidé par l'homme d'affaires russe Yevgeny Prigogine. Selon la presse, c'est lui qui finance le groupe Wagner.
Et ça n'est pas la première fois que ce type de méthode est utilisé.
C'est vrai. En septembre 2020, par exemple, Facebook avait supprimé plusieurs réseaux de faux profils liés à Yevgeny Prigogine, qui tentait de promouvoir le rôle de la Russie en Centrafrique et en Libye. Et un autre réseau de faux profils avait aussi été supprimé, mais lui était lié à des membres de l'armée française et visait à promouvoir le rôle de la France.
Merci Pauline Tchoubard. J'ajoute que vous pouvez retrouver cette enquête dans son intégralité sur le site des Observateurs de France 24.
Merci.
Vérification faite.
Voilà, c'est la fin des Dessous de l'Infox dont vous retrouvez le podcast sur notre site internet ainsi que toutes les éditions précédentes de l'émission. Au générique, aujourd'hui attaché de production Florence Ponce, à la documentation Déborah Lepage, à la réalisation Claude Battista, à la présentation
François Bernard,
qui vous dit bonsoir et à l'année prochaine puisque pendant les fêtes de fin d'année, nous rediffuserons des émissions existantes.
RFI.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Ce samedi sur